bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, là.
Ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
Dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés.
Bonsoir.
Vous écoutez le Canu Info du lundi et on commence tout de suite avec les titres parce qu'on est un peu à la bourre.
Et à l'international, on va parler des révoltes des peuples indigènes en Équateur.
Au national, on commencera par un petit bilan des législatives en France, puis on vous parlera d'un nouveau meurtre policier et enfin, on vous parlera d'événements climatiques plus qu'inquiétants.
Au local, on vous parlera d'une attaque fasciste au couteau dans les pentes faite par Adrien Lassalle et on aura une interview à la fin de l'émission qui nous présentera la contre-enquête sur Blessing morte à la frontière en 2018. Et tout de suite, on commence par les traditionnelles brèves.
Voilà, donc deux petites brèves pour commencer. À commencer justement par l'armée. L'armée qui fait des conneries, merci, on le savait, mais elle le démontre régulièrement et parfois de façon inattendue. Dans le Var, samedi, c'est un tir d'artillerie qui a provoqué un incendie de plus de 600 hectares de végétation. Mais pas de danger, nous a-t-on dit, les habitations sont fort loin du camp d'entraînement. N'empêche que l'incendie s'est dangereusement approché des villages les plus proches et qu'il a traversé une zone dite polluée, c'est-à-dire une zone où il se trouve des obus et des explosifs non explosés et où les pompiers n'ont pas le droit d'intervenir. Ils ont donc dû attendre que l'incendie brûle cette zone et la dépasse pour intervenir. Donc il y a des tonnes de raisons pour supprimer les armées et le fait qu'elles provoquent des incendies n'en est qu'une de plus. Deuxième petite brève, après la lycéenne qui interpelle Macron sur la présence d'agresseurs au gouvernement puis se fait intimider dans son lycée par la police, c'est Elisabeth Borne qui se fait questionner alors qu'elle fait campagne sur un marché du Calvados. On lui demande qu'un homme utilise sa stature d'homme de pouvoir pour avoir des faveurs, ça ne vous dérange pas ? Réponse de Borne. Bien sûr que ça me dérange. La femme qui continue. Alors, pourquoi il est encore là ? Pourquoi personne ne dit rien ? La première ministre lui répond « Attendez madame, moi je ne suis pas juge, vous savez. » Or, l'abus de pouvoir de Darmanin, par exemple, est avéré. En tout cas, elle correspond aux faits qui ont été avoués de lui-même. C'est la qualification de viol qui n'a pas été retenue. Alors à madame Borne qui répond aux femmes d'aller porter plainte et que c'est à la justice et uniquement à elle de s'en charger, on lui rappelle que plus de 76% des plaintes pour viol n'aboutissent pas et sont classées sans suite. Autrement dit, elle demande aux femmes d'aller se faire classer sans suite.
Et on continue maintenant avec...
International.
International.
Puisqu'on part en Équateur.
Ouais, on vous parle à nouveau de l'Équateur où les révoltes populaires et notamment les révoltes des populations indigènes sont régulières. On se rappelle notamment de celle d'octobre 2019 contre l'austérité déjà et l'accord entre l'ancien président Lénine Moreno et le FMI qui prévoyait notamment une baisse drastique des salaires des contractuels dans le service public, des attaques sans précédent de manière générale contre les fonctionnaires et la hausse considérable des prix. Cette mobilisation historique avait en partie fait reculer le gouvernement de Lénine Moreno. Depuis, Guillermo Lasso a pris la tête du pays en mai 2021. Ami des États-Unis, c'est un réactionnaire, un conservateur et un ultra-libéral sur le plan économique. À peine un an après son élection, le FMI est à nouveau passé à l'offensive avec la volonté de privatiser de nombreuses concessions minières dans les territoires indigènes, de privatiser des secteurs stratégiques comme le pétrole, les routes ou certaines banques qui étaient nationalisées sous Rafael Correa. Et bien sûr, des coupes budgétaires massives dans l'ensemble de la fonction publique. En parallèle et notamment à cause de la crise pandémique et donc économique, le gouvernement a durement frappé les classes populaires avec une attention toute particulière pour les populations indigènes. 70% de la population est contrainte au travail informel ou au chômage. Les prix des produits de première nécessité ont explosé. Quant au litre d'essence, il est passé de 2,21$ à 4,86$ le litre en un an. C'est entre autres cette hausse considérable des prix du carburant qui a mis le feu aux poudres. Dès le 13 juin, la CONAIE, la Confédération des Nationalités Indigènes de l'Équateur, ainsi que de nombreuses organisations syndicales ont appelé à la mobilisation générale. Très vite, des barrages et des barricades ont été érigés dans une bonne partie du pays. La capitale, Quito, était quasiment intégralement bloquée ces derniers jours, tout comme certains puits de pétrole des compagnies occidentales ou chinoises. Plusieurs milliers de barils bruts par jour ont par exemple ainsi été perdus. Bien joué. En face, la répression a été particulièrement brutale et les arrestations massives. De nombreux leaders syndicaux ont été arrêtés, notamment celui de la CONAIE, qui s'appelle Leonidas Isa, qui a été arrêté et détenu de nombreuses heures dans un lieu inconnu. Suite à cette annonce, de nombreuses émeutes ont éclaté dans plusieurs villes de l'Équateur, forçant le gouvernement à relâcher Isa. Des assemblées générales menées par la CONAIE ont eu lieu à travers le pays. Les revendications sont particulièrement claires. Réduction et arrêt de l'ensemble du prix des carburants, refus des extractions minières, on est donc bien au-delà juste du simple refus des privatisations, refus de la privatisation des secteurs stratégiques, notamment les routes et l'eau, la mise en place d'une politique de contrôle des prix, le refus de la spéculation des marchés financiers et la libération des prisonniers politiques. En face, l'État cogne fort et s'y est préparé. Avec l'appui notamment de l'impérialisme américain, le gouvernement équatorien a développé ses équipements, les forces armées et de police ont suivi des formations, le gouvernement Lasso compte allouer 1 milliard de dollars supplémentaires à la police nationale et engager 30 000 nouveaux policiers et faire passer une loi qui permet ou renforce l'utilisation des armes à feu dans le cadre de manifestations sociales et habilite également les forces armées à intervenir en matière de sécurité sans qu'il soit nécessaire de déclarer l'état d'urgence. Pour finir, le gouvernement et les médias de la bourgeoisie équatorienne s'acharnent ces derniers jours à assimiler les mobilisations récentes à des actes terroristes qui justifient toutes les lois liberticides et sécuritaires. Comme partout dans le monde, la bourgeoisie organise sa survie et continue à taper sur les plus pauvres. Nous, ce qu'on dit, c'est solidarité internationaliste avec le peuple équatorien et bon courage à eux et elles.
On va maintenant écouter une chanson de la rappeuse italienne Comagatte avec son morceau King Kong.
Posto. Ieri un tipo come ha fatto il grosso, bazzica tra Moscova e Corso Como. Ultimamente se la sente troppo, zona 4 chiama subito rispondo. Giro in ciabatta piazzale cuoco, cocaina, cocaina, quarto e portafoglio. Il tuo tipo mi guarda come un film porno. Tutte queste squi prodotte da non so chi, passano da Dawson's Creek a sentirsi tutte tra qui. Ricordo quel venerdì, una tipa ha fatto la G, sei stata zitta dopo averle offerto un cazzo free drink.
come oggi c'è stila kilo. Tu le prive se una squillo. Se guardi troppo ti chilo, non dissi se io c'ho problema si squillo. Scemi pieni di covassi, quattro peni negri, iscrizioni in sicurezza. Miei amici veri piangono messi se non sostieni la loro faccia. Conte no, abbro toliti quel cazzo di cazzo, ma giocarne cruda. Ci provi da tanto Milano, comando, facciamo magari chi è più puta. Torna a casa Alessi, tanto vinto, ho la sindrome di Peter Pan. Yabba dabba tutti come Cristo, la tua pussy è larga, ci che c'ha.
Chiamami King Kong, scimmia con lip gloss, la più reale, quindi è letale. Il tuo lume ha visto, rimani single, ma oh mio Dio, gruppi da ping pong, come agarrata da, sul collo NKA, non vengo in nudo in gap, sto sotto casa già, non mi pare la star, su punta dei bazar, su questo broke it up, vai avanti col braccio.
Seleziono gruppi per i miei bro, combinazione hanno il culo bello gro. La tua tipa mi odia se ti chiama mo, ma come ti chiami ricordamelo. Mi specchio e tolgo la polvere bianca, metto il rossetto sembro Balanzasca. Italiana ma la pizza solo in faccia, un po' che lo corteggio questo casca. Amo solamente i miei contanti qui per realizzarmi, silenziosa e remissiva, lava piatti no punani. Niente money, le mie mani hanno stretto mani. Ti infamio ciò se sbagli, PDCs ma facchisci non fanno.
Chiamami King Kong, scimmia con lip gloss, la più reale, quindi è letale. Il tuo lume ha visto, rimani single, ma oh mio Dio, gruppi da ping pong, come agarrata da, sul collo NKA, non tengo nudo in gap, sto sotto casa già, non mi pare la star, su punta dei bazar, su questo broke it up, vai avanti col braccio.
Faccio la cantante, faccio la youtuber, faccio la barista, registro da Rubens, lei poi si è più crude. Parti col giorno per giorno e le sto un pochito loco. Vedi troppo, fai le foto, c'ha rimpianti il giorno dopo. Non faccio la puta per le briciole, non ne ho bisogno. Che se vogliono schiocco, stire per me li scopo.
Prima ero la queen, mi facevi il tifo, ma non ti ho dato ciò che vuoi, adesso faccio schifo.
Metallizzi la morte dei tuoi familiari per fare più pena. Ti senti più magra se ti paragoni la tua migliore amico pesa. Fatti dietro baby pasta, non c'è chante jamme. Stacco più vada dentro a me, bleble Rolex sono su catch. Lica, 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 rude boy no pussy lica. Vuoi far storia, non è gica, cammina non sei mia amica. Mi consenta lei riesce solo da pornostar. Ciao bella, ti conosco fumi il crap.
Vous êtes toujours sur Radio Canu et c'est le Canu Info du lundi 20 juin. Et on enchaîne tout de suite.
National. Et au national, on commence avec un petit sujet sur les législatives, ouais. Évidemment.
Avec les résultats du second tour du coup des législatives hier soir, la gauche est tombée des nupes. Bonne blague.
Bonne blague.
Non seulement nous n'aurons pas droit aux envolées oratoires de Mélenchon comme Premier ministre, mais la France insoumise ne constitue même pas la première force d'opposition qui revient au Rassemblement national. Et oui, 90 députés fascistes et fascisants du Rassemblement national se retrouvent propulsés à l'Assemblée nationale. Merci Macron. Pourquoi merci Macron ? Bah, parce que cette percée de l'extrême droite ainsi que la renaissance de la droite sarkozyste des Républicains doit tout au dernier quinquennat de Macron. Rappelez-vous, la loi Asile et Immigration, c'était lui. Se vautrer dans les pages du magazine Valeurs Actuelles, c'était lui. Trouver Marine Le Pen trop conciliante avec l'islam, c'était encore lui. Sans parler des lois islamophobes, des dissolutions de groupes anticolonialistes et antifascistes ou encore du renforcement de la police. Tout ça pour dire que l'entrée massive du groupe de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale n'est pas un coup d'éclat, mais l'aboutissement d'une droitisation extrême de la politique sous Macron, qui a préféré donc faire barrage à la gauche plutôt que d'empêcher une victoire de l'extrême droite. Beau travail. Désormais, le Rassemblement national va avoir 5 ans pour se structurer comme groupe d'opposition, rafler peut-être des ministères, empocher de la thune et étendre donc son champ d'influence nauséabond dans les institutions de la 5ème République déjà bien pourrissante. Ces élections voient donc l'émergence d'un gros bloc de droite et d'extrême droite au Parlement. Sans surprise, après avoir diabolisé la NUP comme ultra-gauche, on rigole, la bourgeoisie a choisi son camp. Reste que ces législatives sont une grosse claque pour Macron et LREM, qui voient le nombre de ses députés divisé par deux par rapport à 2017. Et puis, on vous cache pas qu'on a eu un certain plaisir à voir Castaner éliminé, ainsi que la ministre de l'écologie de Montchalin, tout comme le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. C'est toujours ça de prix. Et la seule bonne nouvelle dans cette histoire, ça a été quand même l'élection de Rachel Keke, une des leaders des femmes de chambre qui était en lutte de l'hôtel Ibis, qui donc a remporté un siège. On lui souhaite bon courage. Et maintenant, Est-ce que Macron va réussir à gouverner avec les forces de droite et d'extrême droite qui s'opposent à lui seulement au nom de leurs intérêts partisans, ou bien au contraire, vont-elles réussir à s'unir et à faire front commun pour faire avancer le bloc de la réaction? On verra. Et NUP, est-ce que NUP va réussir à tirer le maximum de ce qu'on devrait attendre d'une gauche de rupture? Est-ce qu'elle va réussir à s'accorder sur les oppositions internes qui pour l'instant sont clivantes, c'est-à-dire des positions sur le nucléaire, sur la police, sur la politique migratoire, mais aussi sur des positions internationales, comme la question du rapport à l'OTAN, à l'Europe et à la France-Afrique? En réalité, qu'importe. Ces élections désormais passées, notre rôle à nous, militants, militantes révolutionnaires, militantes antiracistes, féministes, antifascistes, syndicalistes et autres, c'est de reprendre la rue, d'amplifier nos luttes sur le terrain et de nous organiser dans nos quartiers pour être en mesure de faire face aux prochaines attaques contre notre camp, c'est-à-dire celui de la justice sociale et de l'émancipation.
Et au national, on enchaîne avec une nouvelle affaire de violence policière.
Oui, en fait, l'affaire date un peu. On vous en avait déjà parlé en avril et ça avait de toute façon fait grand bruit dans les médias traditionnels, mais surtout par rapport à la réaction du côté des forces de l'ordre. Donc voici quelques nouvelles de l'affaire qu'on a appelée l'affaire du Pont Neuf. Pour rappel, c'est un policier, un certain Quentin apparemment, qui tire sur les occupants d'une voiture et en tue le conducteur et le passager à l'avant et blesse le passager arrière. Ce policier a été mis en examen pour homicide volontaire, ce qui avait fait hurler les syndicats policiers, Alliance en particulier, qui se sont mis à organiser des manifestations pour demander ce que eux, ils appellent la présomption de légitime défense, mais qui ressemble beaucoup, quand on les écoute, à la demande d'un permis de tuer. Le policier est mis en examen, ce qui ne signifie pas qu'il n'est pas présumé innocent d'ailleurs. Théoriquement, on vous l'accorde, c'est pas toujours le cas dans les faits, mais théoriquement tout le monde est présumé innocent jusqu'à ce qu'un procès ait lieu et déclare l'accusé coupable, éventuellement. Mais s'il y a des indices graves laissant penser à la culpabilité d'un accusé, il peut être mis en examen. Il reste présumé innocent aux yeux de la justice, en tout cas. Et c'était le cas pour ce policier. Et cette mise en examen, elle existe pour tout le monde. Il n'y a pas de raison que les forces de l'ordre ne soient pas soumises aux mêmes droits que les autres. L'argument des syndicats de police est que Quentin, qui a donc tué deux personnes quand même, je le rappelle, l'a fait parce qu'une voiture lui fonçait dessus. Et il faudrait donc partir du principe que c'est uniquement dans ce genre de cas de légitime défense que la police tue. Mais, oh, surprise, d'après les premiers éléments de l'enquête et de la reconstitution qui a eu lieu la semaine dernière, les coups de feu responsables de la mort des deux passagers ont été tirés depuis l'arrière de la voiture. Une fois que celle-ci avait dépassé, sans l'écraser, le policier mis en examen. Il a tiré avec un fusil d'assaut, arme normalement destinée à riposter à des individus armés et équipés d'un gilet pare-balles, ce qui n'était pas le cas des personnes tuées par Quentin. Quentin, qui devait bien savoir dans quel cas il pouvait utiliser cette arme, puisque sa formation l'autorisant à l'utiliser, il ne l'avait fait que 2 semaines auparavant, formation qui au passage ne dure que 2 jours. Bien que nationalement les flics de France se soient exprimés en soutien avec Quentin, demandant à ce qu'on n'envisage même pas qu'il soit coupable, en ce qui concerne ses propres collègues présents lors des homicides, les témoignages sont accablants. Ils disent avoir été effarés quand la voiture a démarré en plein contrôle, mais l'avoir été encore plus quand Quentin s'est mis à tirer. La policière, qui a d'abord tenté d'attraper le volant de la voiture, déclare même avoir senti des balles la frôler et avoir lâché la portière par peur d'être touchée par son collègue. Les autres policiers vont jusqu'à dire avoir eu peur des détonations et n'avoir pas réalisé d'où elles venaient, se tenant même prêts à protéger les passants. Autre problème, Quentin se trouvait en fait beaucoup plus loin de la voiture que ce qu'il a déclaré au préalable. Il a aussi tiré 10 fois, soit 2 fois plus que ce qu'il avait affirmé. Bref, tout semble montrer qu'il est tout à fait légitime d'envisager qu'il soit coupable et qu'il aurait été grave de refuser d'envisager qu'il puisse l'être. Il faudra bien s'en souvenir à la prochaine manif de flics et c'est bien un droit de tuer qu'il réclame.
Et on enchaîne avec des phénomènes climatiques qui seraient conséquences du réchauffement.
Oui, on va vous parler de phénomènes venteux. Vous êtes toujours sur le Canu Info du lundi, vous êtes toujours sur Radio Canu. Et vous allez comprendre pourquoi. Car en ce moment, il n'y a pas que la canicule, hein, avec des pics de chaleur qui sont allés jusqu'à 43 degrés à Biarritz. Hein, mais il y a aussi, dans les conséquences du réchauffement climatique, des phénomènes venteux extrêmes qui ont eu lieu ces derniers jours en France. Des phénomènes rarissimes, je vais vous les citer et on en parlera après. Alors en Normandie d'abord, plus précisément dans le Calvados, où sur plusieurs plages en simultané, samedi, en fin d'après-midi, le vent est passé de 0 km/h à 100 km/h, voire plus, en quelques secondes. Et ce, pendant plusieurs dizaines de minutes, transformant tous les objets en projectiles ultra dangereux et formant une impressionnante tempête de sable. C'est très rare en Normandie, hein. Ainsi qu'un vent de panique sur les plages, évidemment. Au final, beaucoup de dégâts. alors matériel, mais surtout humain. Il y a eu 57 blessés et un mort, notamment un kitesurfer qui a été emporté par sa voile, qui allait s'écraser sur un restaurant. Et ça, Météo France ne l'avait pas prévu. Dans les Pyrénées-Orientales, il y a trois jours également, où il n'y a pas que le RN qui a été élu. Vendredi, au milieu de la nuit, la température est passée brutalement de 22 degrés à 37 degrés, plus 15 degrés à 2 heures du mat, en quelques secondes, apporté par un vent brûlant soufflant à pas moins de 154 km/h pour les plus grosses rafales. Ce phénomène des bourrasques ardentes n'arrive en principe jamais en France. Et ça, ce phénomène n'était pas prévu non plus par Météo France. Et pour finir, dans le Pays Basque, samedi, un vent violent a fait baisser la température de 20 degrés en quelques minutes, fait rarissime en France. Par exemple, à Biarritz, à 16h45, il faisait 42 degrés. 30 minutes plus tard, on était tombé à 23 degrés. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé de parler de ça ce soir ? Eh bien, c'est parce que ces phénomènes climatiques violents et qui sont imprévisibles sont les conséquences également de l'élévation de la température et qu'ils sont rarissimes en France, mais de plus en plus fréquents à travers le monde. Et qu'on sait que c'est l'activité humaine, ou plutôt l'activité productiviste, industrielle et agricole de l'humanité, les flux de marchandises et le capitalisme mondialisé qui en sont responsables. Le capitalisme a donc fait entrer l'humanité dans une spirale de phénomènes imprévisibles et de plus en plus violents. Il ne nous reste plus qu'à détruire ce système capitaliste.
Et en attendant, enchaînons. Local.
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 Local. Puisqu'à Lyon, les fachos n'ont pas disparu.
Et oui, dans la nuit du 9 au 10 juin, il y a 10 jours, Adrien Rago, dit Adrien Lassalle, un des cadres de Génération Identitaire, un groupe d'extrême droite dissous par le gouvernement en mars 2021, a attaqué deux personnes au couteau sur les pentes de la Croix-Rousse. Alors, les faits se seraient déroulés comme ça, d'après les informations recueillies par Libération et Rue 89. Un groupe de jeunes hommes ont reconnu Adrien Lassalle qui marchait avec une autre personne en bas des pentes de la Croix-Rousse. Le groupe les a traités de fachos et leur a dit de partir du quartier. Et c'est là qu'Adrien Lassalle a sorti un couteau et a attaqué deux jeunes hommes noirs du groupe, l'un au bras et l'autre au cou, qui en a donc réchappé de justesse. En réaction, le groupe de personnes présentes ont donc obligé Adrien Lassalle à se réfugier dans un restaurant du quartier des Terreaux. La police est intervenue et l'a arrêté dans le restaurant. Au moment de son interpellation, il s'est aussi rebellé contre les policiers. Pour rappel, Adrien Rago, dit Lassalle, est en effet, comme lui a signifié ce groupe de jeunes, un bon gros facho qui menait par exemple avec Génération Identitaire des patrouilles anti-migrants dans les Alpes en 2018. Il a aussi la réputation de faire la jonction entre le mouvement identitaire et les hooligans supporters de l'OL. Il les accueille notamment à la salle de boxe La Gaugée, attenante aux locaux de la Traboule, qui était le bar de Génération Identitaire qui a donc été officiellement dissoute mais qui en fait existe encore. Ce bar a été renommé depuis les Remparts de Lyon. Il est donc connu pour avoir été l'entraîneur du club de boxe La Gaugée et il a aussi dirigé les entraînements au sport de combat organisés pendant les universités d'été du mouvement de Génération Identitaire. En mars 2019, c'est à Nancy, dont il est originaire, qu'il a aussi participé au déploiement d'une banderole raciste « Ici c'est Nancy, pas l'Algérie », parce qu'au même moment se déroulait une manifestation pour la démocratie en Algérie. 15 jours plus tard, de nouveau déploiement de banderoles racistes à Bobigny en Seine-Saint-Denis sur le toit de la CAF. Une banderole « De l'argent pour les Français, pas pour les étrangers ». Et puis, donc depuis la dissolution de Génération Identitaire en mars 2021, il continue à s'agiter dans les manifs, notamment les manifs anti-pass lyonnaises où il a été repéré plusieurs fois. Il a participé à l'organisation en décembre 2021 de la marche au flambeau Lugdunumsum, qui regroupe chaque année le petit milieu de l'extrême droite radicale lyonnaise. Et donc, c'est un militant politique très actif de l'extrême droite, mais aussi un agresseur récidiviste, puisqu'il est présent lors d'une attaque raciste contre des jeunes rue Mercière à Lyon en juin 2021, au cri de « Abat la racaille ». Et il aurait également participé à l'agression de la manif pour la fierté lesbienne et très probablement aussi à l'attaque de la Plume Noire, donc la librairie anarchiste de la Plume Noire. Pour ces deux attaques, d'ailleurs, il n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Autre fait d'armes, il est accusé de viol par une étudiante de l'ICEP, l'école de formation de Marion Maréchal à Lyon, qui explique d'ailleurs que depuis, elle est harcelée par deux dirigeants de l'école. Pour l'affaire donc, qui ouvrait ce petit résumé du CV d'Adrien Lassalle, donc l'affaire qui a eu lieu il y a 10 jours, il a été placé en garde à vue pour violence avec arme au préjudice de 2 victimes et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Puis il a été placé en détention provisoire et il a été jugé en comparution immédiate quelques jours plus tard. Il a été condamné à 18 mois de prison, dont 6 avec sursis sans mandat de dépôt. Et au vu de son palmarès qu'on vient de résumer, ça paraît quand même bien peu, même si on n'est pas forcément partisan de la condamnation pénale. C'est toujours ce deux poids, deux mesures entre les condamnations prises par les fachos qui ne cessent de se rendre coupables de faits de violence entre eux donc et des groupes de gauche ou d'extrême gauche ou notamment des antifascistes qui font de la destruction de matériel simplement ou qui se retrouvent en prison pendant un mois et demi en détention provisoire pour des bagarres comme on en a parlé longuement lors de l'affaire des 7 antifascistes qui avaient finalement été relaxés parce que l'enquête était complètement à charge contre eux et qu'il y avait en fait rien pour les condamner dans cette affaire. Donc toujours pareil, une justice à 2 vitesses et en tout cas Adrien Lassalle qui continue à hanter les rues lyonnaises.
Et avant d'accueillir notre invité, une petite pause musicale.
Oui, on va écouter un morceau emblématique de G. Dilla qui se nomme Fuck the Police. On vous laisse deviner la traduction.
The views expressed on this recording are solely those of the artist, and by no means do we encourage or condone violence against law officials.
It's for you. It's for you. Say fuck the police. 1, 2, 3.
Fuck the police.
Yeah, fuck 'em. Applaud any nigga.
Damn right, I'm.
We could lose a few of them. We got enough of them. My niggas on the corner, they be dodging and ducking them. Bitches getting pulled over, end up fucking them. For real. And see, now we got these fake cops. They thought he had a gun. Made a mistake, cops. I hate cops. Turn on the TV. Is this another cop busted for illegal business? They out of control. They out of their minds. They pulling you over. They hopping inside. Just know you got drugs and know you got guns. And they know when they mad when they can't find none. Stupid. Don't you know they give in at the stash box? The EV and they need a key to get in it. And the offended people suck my balls. All y'all off the wall get stupid, dawg. Don't hold back, don't let go. Don't say damn, just say whoa. Gangs of us grow deep, nigga. We OGs fill up the whole Jeep, nigga. Hell with the flows and there with the beats. Hell in the rover, it's over homes, the oldies. The reason we hold things is no peace in the streets with the police in the streets. Yo, it's cops the old niggas though for O's and keys. It's more than the beef with the 5-0. In the streets with the 5-0, it's a game of survival, dude. Now tell me, who protects me from you? I got people who buy texts and weed from you. And all a nigga see in the news is cop corruption. Niggas getting popped for nothing. And niggas getting stopped and the cops pull out Glocks and bust them. Y'all need to get shot for nothing. Cause we don't hold back, we let go. We don't say damn, we just say whoa.
Et c'est toujours Radio Canu, et c'est toujours le Canu Info du lundi 20 juin. On vient d'écouter Fuck the Police de G. Dilla. Et on va parler de la frontière tout de suite.
Oui, on commence tout de suite notre interview avec Sarah, qu'on a invitée, qui est chercheuse et militante, et qui a mené une enquête sur la mort de Blessing, retrouvée morte à la frontière franco-italienne. Donc bonsoir Sarah.
Bonsoir.
Merci d'être venue.
Et pour commencer, une première question, est-ce que tu peux nous présenter rapidement le cadre dans lequel tu as réalisé cette enquête ?
Oui, alors du coup, c'est une enquête qui a
C'est une enquête qui a une histoire, c'est-à-dire que donc Blessing, c'est une personne qui a été retrouvée morte le 9 mai 2018 dans la Durance, un peu en aval de Briançon, donc Briançon qui se trouve à la frontière franco-italienne. Et dès le début, les associations locales ont trouvé qu'il y avait des circonstances très floues à sa mort, notamment parce qu'elle traversait la frontière avec deux autres personnes, dont une a attesté qu'ils avaient été pourchassés par les forces de l'ordre. Lorsqu'il traverse un village qui se trouve entre Montgenèvre, qui est le village de la frontière, et Briançon. Et cette personne n'a pas revu Blessing depuis. Et une fois qu'elle a été identifiée, qu'il s'est bien avéré que c'était elle dont il s'agissait, les associations ont fait un signalement au procureur de la République et elles ont essayé de mener une contre-enquête de leur côté pour comprendre ce qui s'était passé. Et depuis, aucune justice n'a été faite sur les événements. La sœur de Blessing, qui habite en Italie, Christiana, a aussi entamé des démarches judiciaires et elle demande vérité et justice pour sa sœur depuis maintenant 4 ans. Et donc c'est dans ce contexte-là que cette contre-enquête a eu lieu.
Ok, et du coup, toi, l'enquête, tu l'as réalisée pour une ONG, c'est ça? Tu peux juste nous dire rapidement laquelle c'est?
Alors donc du coup, il y a d'abord un premier dossier de contre-enquête qui a été fait en 2020 par l'association locale qui s'appelle Tous Migrants. Et qui n'a pas abouti, c'est-à-dire que d'abord il y a eu une plainte qui a été déposée par la sœur de Blessing Matthew et Tous Migrants ensemble auprès du tribunal de Gap et qui a été classée sans suite en 2021, et ensuite ils sont allés en appel et ça a été également classé sans suite à Grenoble, et malgré tout le travail de contre-enquête qu'avait déjà fait l'association locale Tous Migrants. Et c'est suite à ça que Border Forensic a pris contact avec eux. Donc Border Forensic, c'est une ONG qui travaille sur les morts et mortes et disparus, notamment en Méditerranée, et qui utilisent des méthodes d'enquête pour justement pouvoir ensuite amener des preuves devant la justice quand il y a eu des cas de déni de justice et pour soutenir les familles de victimes. Et c'est la première fois qu'ils faisaient une enquête dans les Alpes, d'habitude ils sont plutôt en Méditerranée, et là ils ont commencé à cette enquête donc avec Tous Migrants, et c'est là que du coup ils m'ont demandé avec une autre chercheuse de travailler avec eux pour faire éclater la vérité sur cette histoire.
Et justement, entre la mort du coup de Blessing et aujourd'hui, il y a eu plein d'étapes, toute une saga judiciaire. Est-ce que tu veux bien revenir dessus, sur les différentes étapes?
Donc du coup, il y a eu d'abord un signalement qui n'a pas été pris en compte par le procureur. Puis la police a fait une enquête quand même, donc il y a eu d'abord l'identification de la victime. Et puis il y a eu donc toute une enquête qui a été menée d'abord par la gendarmerie locale, puis par des officiers de police judiciaire de Marseille. Et en fait, ce que notre contre-enquête démontre en partie, c'est que cette enquête, elle a été complètement bâclée, voire même il y a un fort biais idéologique en fait dans la manière dont elle a été faite, c'est-à-dire que les policiers, les gendarmes enquêteurs disculpent a priori leurs collègues d'avoir pu avoir aucun rapport avec Blessing au moment où elle traversait la frontière. Et donc du coup, il y a tous les faits qui sont détournés. Et cette enquête, elle est truffée de contradictions, elle est truffée d'incohérences et de choses qui ne peuvent pas avoir eu lieu. Et tout ça, le procureur n'en a pas tenu compte. Et puis quand la sœur de Blessing a porté plainte, un an plus tard, le juge n'en a pas tenu compte. Et à nouveau, quand ils sont allés en appel, le juge n'en a pas tenu compte encore à Grenoble. Et donc, c'est à ce moment-là que, du coup, on est intervenu pour faire encore une autre contre-enquête en essayant d'amener des éléments de preuve supplémentaires. Et nous, ce qu'on demande, c'est la réouverture de l'instruction judiciaire. Parce qu'à ce stade, en fait, le dossier est complètement classé. Et donc, pour même qu'un jour la vérité soit faite et que les policiers soient condamnés, il faudrait déjà demander la réouverture de l'instruction judiciaire. Et c'est ça qui est actuellement en cours d'examen par le procureur de Gap.
Ok, du coup, pour demander la réouverture de cette enquête sur la mort de Blessing, vous avez apporté des nouveaux éléments, donc qui sont la conclusion finalement de l'enquête menée par l'ONG. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les nouveaux éléments que vous avez apportés?
Du coup, ce qu'on a fait avec du coup, l'association Tous Migrants, c'est qu'on a retrouvé les témoins. Donc on a notamment retrouvé un des témoins qui n'avait jamais été entendu, même si la police prétend l'avoir interrogé et qu'il y a un faux témoignage qui lui est attribué dans le dossier d'enquête, mais en fait c'était un faux témoignage. Et donc cette personne, on l'a retrouvé, on est retourné sur les lieux avec lui et il nous a vraiment décrit tout ce qui s'était passé. Ça, avec Border Forensic, on l'a documenté par différents outils, par le film notamment, par la prise de son dans l'espace, et grâce à ça on a reproduit une cartographie de tous les événements qui se sont passés ce soir-là. Et la deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a reconstitué dans l'espace tous les témoignages des policiers qui étaient présents dans le dossier pénal, pour montrer justement à quel point ils étaient tous faux et se contredisaient mutuellement, et que si un d'entre eux avait raison, ça veut dire que forcément les autres sont en train de mentir. Et donc ça, pareil, on a produit donc deux vidéos. Une première avec le témoignage du témoin et une deuxième sur les contradictions des témoignages des policiers, où on démontre donc toutes ces choses-là qui n'étaient pas prises en compte dans l'enquête initiale.
Est-ce que tu veux bien revenir un peu sur justement ce processus, ce travail d'enquête ? Comment vous l'avez élaboré ? Est-ce que vous avez eu aussi des résistances ou des problèmes extérieurs ou des pressions ou en interne des difficultés justement à mener à bien ce travail d'enquête ?
Ben, ce qui est très difficile, c'est que le témoin, en fait, c'est quelqu'un qui est dans une situation qui est très difficile. C'est une personne qui est sans papier. L'autre témoin, par exemple, n'a jamais voulu travailler avec nous ni retémoigner parce que c'est des personnes qui vivent constamment dans la peur de recevoir des pressions policières, des violences policières à nouveau. C'est des gens, suite à la mort de Blessing, qui ont subi du harcèlement de la part des forces de l'ordre. Même quand le témoin, il était retourné en Italie, il a été harcelé. Et donc ils sont constamment mis dans une situation de pression et de peur pour témoigner. Donc ça, c'est vraiment très difficile, il faut absolument assurer leur sécurité et c'est comment est-ce qu'on peut, en faisant cette enquête, à la fois faire éclater la vérité et à la fois assurer leur sécurité. Et voilà, et c'est beaucoup de doutes par rapport à ça. Parce que attaquer la police en justice, c'est pas quelque chose d'évident.
Ouais, on imagine que pour une personne sans papier, encore moins évident, effectivement. Et du coup, donc ça a fait ressortir cette affaire en particulier sur la mort de Blessing, les éléments qui ont été publiés dans la presse sur votre enquête. Mais cette affaire, qu'est-ce qu'elle révèle sur la situation plus globale à la frontière franco-italienne ?
Bah alors, donc du coup, déjà, ce que notre enquête démontre, en fait, c'est que Blessing, elle a été... donc, c'était une patrouille de gendarmerie mobile qui était venue en renfort suite à l'action à la frontière de Génération Identitaire que vous avez mentionné tout à l'heure. Voilà, donc ils étaient là pour faire du contrôle de l'immigration en soutien à la police aux frontières et en même temps du maintien de l'ordre parce qu'ils disaient qu'il y avait des tensions entre eux, ce qu'ils appellent l'ultra-gauche et Génération Identitaire à ce moment-là. Et donc, il y avait eu un renforcement massif de présence policière qui avait été ordonné par Gérard Collomb à ce moment-là. Et donc du coup c'est ces gendarmes en fait qui sont pas de la région, qui venaient d'arriver depuis 2 semaines, qui ont aperçu 3 silhouettes et qui les ont prises en chasse à travers un village, qui les ont poursuivis à travers un jardin. Et en fait c'est en étant poursuivis dans ce jardin que Blessing est tombée dans la rivière qui traverse le jardin en question. Notamment, elle a avancé jusqu'à la rivière et elle a dit au policier qu'elle allait se jeter dans l'eau s'il continuait à la poursuivre, et lui il l'a attrapée par la main. Elle s'est débattue et c'est comme ça qu'elle est tombée dans l'eau. Donc il y a une responsabilité policière directe. Ce que cette histoire elle nous apprend sur le contexte plus général à la frontière, c'est que en fait c'est ce qu'on démontre dans notre contre-enquête, c'est qu'elle s'inscrivait dans un contexte où les courses-poursuites avec des forces de l'ordre, elles étaient constantes contre les personnes qui traversent la frontière. C'est-à-dire que des cas de courses-poursuites, on en a relevé au moins 9 sur la base des témoignages des personnes exilées qui traversaient la frontière à ce moment-là, dans les 2 semaines avant et 2 semaines après la mort de Blessing. Et ça, c'est uniquement les témoignages qu'on a recueillis. C'était également une période où il y avait Génération Identitaire qui collaborait avec les forces de l'ordre pour faire des sortes de patrouilles vigilantes et appeler les policiers à chaque fois qu'ils voyaient des personnes noires traverser la station de ski. Et d'ailleurs, ils ont été condamnés pour ça. Donc, c'était une période en fait, de violence policière extrême, constante, quotidienne. Et en fait, quand Blessing est morte, quelque part, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait finalement quelqu'un qui finisse par mourir. Les habitants locaux, ils avaient averti Emmanuel Macron depuis le mois de décembre à cause de la neige. Et ce qui est assez ironique, c'est que finalement, elle n'est pas morte dans la neige. Elle est morte poursuivie. Donc au printemps, il n'y a plus de risque naturel. Mais en fait, c'est vraiment les pratiques policières qui mettent en danger les gens. Ce n'est pas la montagne en soi. Et il y a une autre personne qui a été retrouvée morte le 18 mai 2018, donc même à peine 10 jours après elle. Donc c'est vraiment un contexte général. Et après elle, il y a encore 4 autres personnes qui ont été retrouvées mortes juste dans les Hautes-Alpes. Et ce qu'on montre aussi dans notre enquête, parce qu'on a essayé de l'inscrire vraiment dans un contexte plus général, c'est qu'en fait tout ça, ça vient du renforcement des contrôles aux frontières internes aux États européens, mais notamment la frontière franco-italienne depuis 2015, donc avec 87 morts dans les Alpes depuis 2015, et dont 46 à la frontière franco-italienne, qui est la plus mortelle de tout l'espace alpin. Et donc ça, c'est vraiment juste les chiffres depuis 2015. Et avant, des personnes en migration qui mouraient à ces frontières, dans ces montagnes, on en comptait à peine 6 ou 7 sur une période de 20 ans. Et là, en 2015, c'est vraiment des morts qui révèlent en fait ces violences continues et constantes. Et ça, c'est lié à des politiques beaucoup plus générales, c'est lié à cette militarisation.
Mais pour continuer là-dessus, est-ce que tu veux bien nous décrire un peu à quoi elle ressemble, cette frontière franco-italienne autour de Briançon ? Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire passer la frontière en été ou en hiver concrètement pour les personnes exilées ?
Ce qui est assez intéressant, c'est que souvent, quand on imagine une frontière, on imagine des barbelés ou un gros poste frontière ou un mur. En fait, la frontière à Briançon, c'est pas du tout ça. Et c'est vraiment juste des patrouilles policières mobiles qui sillonnent la montagne. Donc ça fait depuis les années 70, en fait, que les... Enfin, depuis les années 70, et surtout depuis Schengen, que finalement, ils ont décidé de pas mettre des frontières fixes, mais vraiment des frontières sous forme de patrouilles policières mobiles. Et c'est ça qui met particulièrement en danger les personnes, parce qu'il suffit pas de contourner le poste frontière quand on a peur d'être arrêté. Les policiers, ensuite, ils sillonnent la montagne en VTT, en motoneige quand il y a la neige, en 4x4, par tous les moyens. Ils sont armés de... Enfin, ils sont équipés de lunettes infrarouges, donc ils voient... alors que les personnes ne voient pas forcément la nuit. Les personnes souvent qui traversent les frontières, c'est des gens qui n'ont pas de moyens, qui n'ont peut-être jamais traversé une montagne de leur vie, donc ils ne sont pas du tout équipés. Et les policiers, eux, ils sont suréquipés, ils ont des tenues de camouflage, ils se camouflent en touriste, ils s'habillent tout en noir pour ne pas être vus dans le noir. Ils mettent en place des stratégies où ils font des sortes de guet-apens, où ils poursuivent les gens, et puis il y a un autre groupe qui les attend en bas. Enfin, c'est ça la frontière, en fait. C'est vraiment ces pratiques de traque et de mise en danger. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sur le point même de la frontière, en fait, au niveau du poste frontière, il y a beaucoup de touristes qui ne voient même pas qu'ils sont là, parce qu'en fait, ils sont juste dans leur petit poste frontière et ils n'arrêtent pas du tout toutes les voitures, ils n'arrêtent pas les cartes touristiques et ils identifient au faciès les voitures qui passent et ils décident s'ils arrêtent la voiture ou pas. Et donc, du coup, à la fois, ils sont très invisibles de tous les touristes qui traversent cette zone et à la fois, les personnes qui sont ciblées par les contrôles policiers, qui sont la plupart du temps les personnes racisées, Et ces personnes-là, elles sont obligées, quand elles ont besoin d'éviter le contrôle, de se mettre en danger.
Et du coup, voilà, tu parlais de ces courses-poursuites mortelles. Il y en a eu une autre très récente dans la nuit de mardi à mercredi. Peut-être tu peux nous en dire deux mots.
Bah, du coup, ce que j'en sais, c'est juste ce qu'on a vu dans les médias. C'est-à-dire que, du coup, il y a une voiture qui avait à son bord des personnes qui traversaient la frontière. Et qui a passé un point de contrôle policier, je ne sais pas si c'était un barrage ou juste un point de contrôle sur la route, et qui a été prise en charge par une voiture de police depuis Sospel jusqu'à Nice. Donc c'est quand même un sacré chemin. Et la voiture de police a tiré sur les passagers de la voiture. Et il y a du coup une personne qui est décédée d'une balle dans la tête. Et suite à ça, ce que j'ai appris récemment, c'est que donc, les quatre autres personnes qui se trouvaient dans la voiture ont été arrêtées, mises en centre de rétention, et qu'elles ont été... Elles ont été mises en liberté par le JLD en disant que voilà, elles avaient été traumatisées, qu'elles pouvaient pas rester en détention comme ça. Et le procureur a fait appel pour qu'elles restent dans le centre de rétention. Et du coup, il y avait un appel à soutien devant le tribunal d'Aix-en-Provence hier ou avant-hier pour les soutenir. Donc ça montre vraiment l'acharnement au niveau politique, au niveau judiciaire, à tous les échelons pour que la vérité sur ces violences policières aux frontières, elle éclate pas. Et c'est vraiment les violences policières qui sont les plus invisibilisées parce que c'est contre des personnes qui ont très peu de moyens juridiques pour se défendre et pour faire entendre leur histoire.
Tu nous as décrit un peu les formes de violence qui existent à la frontière, les dispositifs de contrôle, etc. Et est-ce que tu peux aussi revenir contre ça, les pratiques de solidarité, les résistances qui sont enclenchées justement en solidarité aux exilés à la frontière ?
Bah, y a un peu tout un tas de niveaux sur lesquels il faut agir. Déjà, si on veut... Il faut agir vraiment voilà, au niveau politique, et ça c'est chacun dans sa ville, c'est pas à la frontière forcément, mais pour voilà, dénoncer ces politiques migratoires, demander la régularisation des sans-papiers, l'ouverture des frontières et ce genre de choses. Après, à la frontière même, la frontière des Hautes-Alpes et du Val-de-Suce, c'est une frontière où il y a pas mal de solidarité qui se met en place, et c'est une solidarité qui est vraiment importante et qui a un impact direct en fait, sur la vie des personnes. Notamment au moment où Blessing est passé, il y avait un squat à Clavière, donc c'est le dernier village du côté italien qui s'appelait Chez Jésus, c'est un nom ironique parce que c'était dans une église. Et par ce squat, il y avait toutes les personnes en fait, qui traversaient la frontière et ne savaient pas trop où aller, comment s'abriter, etc., qui passaient par là. Elles étaient accueillies inconditionnellement, tout le monde, enfin, c'était un endroit vraiment en autogestion, donc tout le monde pouvait venir se faire à manger, dormir. Et du coup, toutes les personnes qui traversaient la frontière, là-bas, elles pouvaient échanger, s'équiper pour marcher en montagne, trouver des infos, et en fait si elles étaient arrêtées par la police et renvoyées du côté italien, elles avaient un endroit où revenir se reposer et se soigner. Et donc moi je militais là-bas à l'époque, et donc on voyait vraiment que bah, y avait des personnes qui revenaient après avoir été arrêtées par la police, qui étaient blessées, mais tous les jours, qui avaient la jambe cassée, qui avaient le bras ouvert, enfin des choses comme ça, parce que c'est la violence des forces de l'ordre. Et le fait d'avoir un endroit juste à côté où tu peux te ressourcer et où t'es pas en danger, les gens vont pas te livrer à la police, c'est super précieux. Enfin, c'est clair que cette solidarité à la frontière, elle a permis de sauver des vies, on sait pas combien. Et voilà, mais après, évidemment, bah, comme tous les lieux militants et comme tous les squats, c'est aussi victime de répression, et du coup, ça a été fermé enfin, ça a été expulsé, fermé. Et les zones de frontières, ça fait partie des zones où la répression, même contre les personnes solidaires, est une des plus fortes. Parce que parce qu'ils savent très bien que ces solidarités-là, c'est une vraie lutte contre la frontière, en fait. C'est des petits gestes d'humanité, mais en fait, c'est une vraie lutte contre la frontière. Et du coup, c'est pour ça qu'ils veulent absolument l'étouffer. Mais du coup, c'est de plus en plus difficile parce que, à force d'avoir plein de procès, ça demande aux associations d'avoir vachement d'argent pour pouvoir financer des avocats. Et ça affaiblit beaucoup les militants et militantes locaux. Mais ça continue. Il y a dans toutes les frontières, il y a toujours, heureusement, des gens qui ouvrent leurs portes, des gens qui vont manifester. Et il y en aura toujours. Et du coup, je vous invite à passer dans le Briançonnais et dans le Val-de-Suze et aussi vers Vintimille, tout ça. Il y a plein de collectifs, etc., qui demandent souvent des coups de main et qui sont contents d'avoir du relais.
Est-ce que ça vaut le coup de... Je ne sais pas si vous l'avez dit, je suis désolée. Est-ce que les résultats de cette enquête, ils sont consultables quelque part ?
Ouais, du coup, il y a eu un article de Mediapart qui a été fait sur la question. Donc, qui est sorti le 31 mai, et sinon sur le site de notre ONG, donc Border Forensics, donc FORENSICS, et là il y a tout le résultat de notre compte enquête qui est publié.
Ok, merci beaucoup.
Et d'ailleurs récemment il y a eu aussi un week-end de mobilisation à la frontière, ou non,
récemment j'ai pas entendu parler, mais il y en aura sans doute cet été. En général, tous les étés il y a des rassemblements.
Eh ben, merci pour toutes ces explications. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou...
Pas spécialement, juste feu aux frontières.
Ouais, eh ben, merci d'être venu. On enchaîne avec un petit agenda qui commence mercredi avec la permanence de santé de l'espace communal de la Guillotière. Comme toutes les semaines, c'est au 27 rue Salomon-Reynard. C'est pour tous et toutes et c'est gratuit. Et puis jeudi,
donc à côté, à l'annexe de le CG, 27 rue Salomon-Reynac, il y a la projection d'un film documentaire qui s'appelle Mayapolis, qui parle du tourisme et de l'expansion urbaine dans la péninsule du Yucatan, et surtout des conséquences du tourisme et de ce que ça implique en termes de dépossession des terres mayas. Le réalisateur sera présent, il arrivera tout droit du Mexique, donc n'hésitez pas à venir nombreux et nombreuses à cette projection. C'est à 19h, donc à l'annexe de l'ECG.
Et même si c'est dans un petit moment, je viens quand même de retrouver l'info qui était en rapport avec notre interview. Il y a bien un week-end de mobilisation contre les guerres et les frontières à Turin les 24, 25 et 26 juin 2022, donc finalement c'est ce week-end en fait, c'est pas dans longtemps du tout, c'est ce week-end du 24 au 26 juin à Turin.
Et bah, plein de choses à faire ce week-end, parce que samedi, si jamais vous suivez la saga des soulèvements de la terre, vous pouvez vous rendre à la Clusaz. Il y a un événement contre les stations de ski le 25 et 26 juin. On trouve des informations plus précises assez facilement sur internet. Si vous restez à Lyon, par contre, il y a le traditionnel infoshop de la Lutine de 14h à 18h. La Lutine, c'est au 91 rue Montesquieu. À Lyon toujours, vous pouvez aussi samedi aller au rassemblement contre le lobby de l'industrie de l'armement à Lyon, puisque les guerres se fabriquent aussi près de chez nous. Le lobby en question, c'est le Cluster Eden. Il est hébergé à la Chambre des commerces et de l'industrie de Lyon, où se trouvera donc le rassemblement. Et il rassemble plus de 100 entreprises de matériel militaire. Et pour finir, samedi toujours le soir, un départ de la presqu'île, c'est la Pride de nuit en mixité choisie LGBTQIA+.
Puis demain soir, c'est la fête de la musique. Parfois, c'est aussi des moments un peu subversifs. On vous invite à vous balader dans les rues et être attentif et attentive.
À voir. Et en attendant, nous, on ne vous retrouve pas la semaine prochaine, puisque c'est la dernière émission de cette année scolaire pour le Canu Info du lundi. Mais on vous retrouve sans faute en septembre. Bon été.
Bon été.
De me dire que ça ira mieux, sincèrement rien de me promettre les yeux. Je suis mort, déjà mort, mort.
déjà mort, mort, déjà mort hier. Je suis mort, mort, déjà mort, mort, déjà mort.
Kindness, it will leave no one behind, no survivors alone. When you keep a home on evil, if you keep the devil on home, I used to dream more as a child. Had my own two eyes open wide. Joy, where have you gone? I'd love to cook you up in a spoon, to mainline you anytime soon. Anytime soon. Could I take some more time on the slide? Could I finally live to try? But it's over, we're going down, we're going down. Again, what people pleaded just the same, said a young boy in my ear. Everyone's acting dear when he comes, waiting until he unfolds. I used to dream more as a child. Had my own two eyes open wide. Joy, where have you gone? I'd love to cook you up in a spoon, to mainline you anytime soon. Anytime soon. Could I take some more time on the slide? Could I finally live to try? But it's over, we're going down,